Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance.
Pantin s'appellera pendant un an Pantine.
Nous sommes dans une guerre hybride.
Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que, ainsi, nous voulons interpeller. Nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse.
Alors, Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, j'ai pas d'autres termes.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition. C'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Nous sommes en guerre.
Total, il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises.
Ne relèveront plus que des autorités françaises. Qui disait ça ? Qui parle de souveraineté française ? Eh bien, un certain Charles de Gaulle, alors président de la République. Eh bien, nous recevons aujourd'hui l'un de ses petits-fils, Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, il est conseiller d'entreprise, il est géopoliticien et il va nous parler de ce qui se passe, aussi bien sur le registre de la guerre Russie-Ukraine que sur la France. Et il n'est jamais, jamais malséant de parler de la France. Mais auparavant, on va parler aussi de quelque chose qui est au fronton de tous les édifices de la République française. Liberté, égalité, fraternité, liberté, liberté d'expression, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle devient ? On en parle avec l'avocat Diane Prota au sujet de l'affaire François. Mais au-delà de l'affaire François, est-il encore permis de parler librement ? Oui, nous le faisons, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, mais est-ce que c'est généralisé ? Et est-ce qu'il faut que ça soit généralisé ? Bien sûr, on va parler de tout ça, et évidemment, de la perle d'Agnès Pannier-Runacher. Et on est tellement heureux de l'écouter à chaque fois. À tout de suite.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas.
Merveilleuse chanson de Georges Moustaki. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Et bien cette perle rare, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, vous le savez tous, ben il faut la garder, la préserver, la défendre le plus fortement possible. Car sans liberté, on sait très bien ce qui se passe. Les exemples depuis des siècles sont très nombreux. Et justement, on va parler de cela avec Diane Prota pour une décision. Eh bien, on dit cette fois, la justice ne fait pas son boulot. Eh bien, cette fois-ci, si la justice peut faire son travail, elle le fait. Et là, elle l'a fait pour en ce qui concerne un journal en ligne, François. Par une décision en date du 13 janvier, donc il y a 3 jours, le tribunal administratif vient de trancher en faveur de François et a prononcé la suspension de la décision du 5 décembre 2022, vous voyez, tout ça est allé assez vite, où la commission mixte paritaire des publications et agences de presse, la très officielle, a refusé le renouvellement de l'inscription de François jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Alors, Diane Prota, d'abord, cette CPAP, cette commission mixte paritaire des publications et agences de presse, qu'est-ce qu'elle reprochait à François et qu'est-ce qu'elle a demandé de sanctionner.
Bien, bonjour, monsieur Berkov. Merci de cette invitation. Je profite quand même dès le début pour dire que je n'étais pas la seule avocate de François, que j'ai défendu François avec mes confrères Dimé Glio, Golnadel et Laïchi. Ça a été une équipe tous ensemble pour parvenir enfin à une belle décision.
Une dream team.
Alors, en tout cas, je vous remercie de la qualifier comme ça. Mais pour être très concrète, j'ai amené la décision de la CPPAP, donc celle qui était critiquée. Oui. Et ce qui était dit le 5 pour retirer donc cet agrément CPPAP, qui, en substance, permet surtout aux gens qui font des dons à France Soir d'obtenir une défiscalisation sur leurs revenus ensuite.
Les lecteurs, qui regardent ce journal en ligne, l'écoutent, font des dons. Et entre autres, un journal comme celui-là, et puis que d'autres, il y a énormément de tribunes en ligne, de blogs, etc., vivent de ces dons.
Exactement. Et les revenus de France Soir sont à 90% tirés des dons, dont 70% sont défiscalisés. Et défiscalisables, il y a certaines personnes qui parfois ne demandent pas sa défiscalisation, mais la plupart, comme vous l'avez vu, le font. Et ce qui a été reproché pour retirer cet agrément...
Alors attendez, si je comprends bien, non, juste pour être précis, donc ce que demandait la commission mixte paritaire de publication agence de presse, c'est que France Soir ne puisse plus profiter de la défiscalisation.
C'est ça.
Entre autres, faillite, quoi, assurée.
Exactement, vu la proportion, puisque vous l'avez compris, c'est le modèle de financement de cette presse qui est finalement gratuite, mais c'est parce qu'elle est financée
par... C'est la presse en ligne en général.
Financée
par
ses lecteurs. Et justement, pour empêcher ce financement, la CPPAP a pris une décision disant « En ce qui concerne France Soir, après avoir examiné les pièces du dossier et les contenus du service, et avoir sollicité l'avis de la DGS, du ministère de la Santé, la commission a constaté qu'était publié sur ce site internet de manière régulière et univoque des contenus qui jettent le discrédit sur les vaccins autorisés par les autorités publiques pour lutter contre la Covid-19 et sur sa politique vaccinale et sur la politique vaccinale mise en œuvre par les pouvoirs publics, ainsi en délégitimant des dispositifs médicaux et approuvés et recommandés par les autorités sanitaires, le contenu publié sur France Soir sont susceptibles de détourner les citoyens de ces dispositifs médicaux et par là même de constituer un danger pour la santé publique.
C'est-à-dire que France Soir inciterait les citoyens à ne pas se vacciner et donc que ça constitue un danger. Alors en fait, il dit que France Soir, vous faites des fake news en encourageant la non-vaccination et vous vous dites ça n'a rien à voir. Alors expliquez-nous.
Oui, il y a deux points. Pour revenir sur le premier, je rappelle quand même que l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prévoit que la liberté, elle consiste à faire tout ce qu'on veut tant qu'on ne nuit pas à autrui. Tout le monde le sait, la liberté, pour limite la liberté.
Oui, mais là, dit le gouvernement, enfin le CPAP, vous nuisez, François, nuit à autrui.
Posez-vous la question, comment peut-on, d'un point de vue de la causalité, reprocher, dire aux gens qu'ils mettent en danger la santé publique en lisant quelque chose? Parce que ce dont il faut se souvenir, c'est que la vaccination, elle n'est pas obligatoire. En tout cas, ce qu'a dit le gouvernement. Alors, si la non-vaccination constituait un danger pour la santé publique, à ce moment-là, si le gouvernement avait été sincère, il aurait rendu cette vaccination obligatoire. Comme elle ne l'est pas, ça veut dire que c'est un choix libre et éclairé de chacun. Pour faire un choix libre et éclairé, il faut avoir des informations loyales et transparentes. Et de ce fait, comment peut-on considérer qu'en lisant un journal, nous allons mettre en danger la santé publique, puisque justement, cette vaccination n'est pas obligatoire? Donc il y a quand même un vice réel du raisonnement dessus. Et à moins de considérer finalement que le danger, c'est la liberté en elle-même, celle de s'informer, peut-être.
Et alors justement, de ce point de vue-là, donc le tribunal administratif a démenti, enfin a dit, attendez, vous ne pouvez pas recommander cela. Quels ont été les arguments de la justice, en l'occurrence du tribunal administratif?
Alors, l'argument principal qu'a retenu le tribunal administratif, c'est malgré tout la partialité de la présidente de la CPPAP. Cette dame, qui s'appelle Madame Franceschini, d'ailleurs, qui est conseillère d'État et qui préside cet organe, l'année dernière, dans le cadre d'une commission, vous avez peut-être entendu parler, la commission Bronner, qui a rendu un rapport à Monsieur Macron sur, ça s'appelle le numérique à l'ère des Lumières.
Oui.
Ça aurait peut-être plutôt été la Pravda à l'ère des Lumières, à l'ère du numérique, si vous voulez mon opinion, mais enfin, quoi qu'il en soit. Cette dame, au mois de janvier 2022, a pris parti publiquement contre France Soir et a dit dans la presse, et c'est ça qui était le plus important, c'est qu'elle souhaitait que la CPPAP retire à France Soir son agrément. Pour être plus précis, elle a dit « S'agissant du cas particulier de France Soir, le seul levier dont dispose la commission serait de considérer que le site présente un défaut d'intérêt général en raison notamment d'allégations susceptibles de porter atteinte à la protection de la santé publique. »
D'accord.
Or, il y a un principe d'impartialité, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte, même sans être juriste, quand vous êtes le juge d'un dossier, vous ne pouvez pas être le juge si... Oui.
Et ça, elle l'avait dit en janvier dernier.
Un an avant, publiquant, remis à M. Macron, et donc elle aurait dû se déporter. Donc c'est à ce titre que ça a été suspendu. Mais néanmoins, beaucoup d'éléments ont été portés à la connaissance du tribunal, dont la défense de la liberté d'expression, mais également la constitutionnalité même de l'existence de la CPPAP, parce que mon confrère Dimé Glio a posé une question prioritaire de constitutionnalité, qui elle a également été renvoyée, sur laquelle il faudra statuer pour savoir si cet organe en lui-même, qui est, dont les représentants sont majoritairement ceux du gouvernement, est indépendant ou pas. Donc il y a un problème fondamental qui est celui-là.
La question
de toute façon pour tous les autres.
De l'indépendance de cette commission mixte paritaire de publication
parce que,
et agence de presse.
Indépendamment de la décision qui est un succès pour François, de toute façon, le Conseil d'État et ensuite, je l'espère, le Conseil constitutionnel devront statuer sur la légalité même de cette commission. Mais donc, vous l'avez compris, il y avait des éléments de procédure, donc la partialité de la juge, mais également un problème de respect du contradictoire, puisque cette note de la DGS du ministère de la Santé qu'on oppose à François, on n'en a jamais eu communication, donc normalement, on doit pouvoir quand même se défendre. C'est anormal et par ailleurs, le règlement intérieur de la CPPAP a été violé deux fois et gravement. La première, c'est que la convocation à l'ordre du jour a été adressée un jour avant la séance aux membres et non pas huit jours. Mais également, il y a eu, c'est important, une fuite de la décision dès le 30 novembre dans la presse et sur les sites du ministre, alors que François même n'avait pas reçu cette décision. Et ça, c'est la violation du secret du délit.
D'accord. Ça, malheureusement, la violation du secret de l'instruction, vous le savez, je ne dis pas, je ne le défends pas du tout, mais malheureusement, c'est devenu, hélas, monnaie courante. Mais revenons à l'essentiel, Yann Prota. On a parlé de ceci, les dons.
Alors,
parce
juste,
c'est très important parce que effectivement, dans toute une presse, alors il y a une presse qui bénéficie d'énormément de publicité, de subventions. Faut bien le dire. On sait très très bien que énormément de médias reçoivent des subventions, je ne les citerai pas tous, de l'ordre du gouvernement, donc du contribuable, de 16 millions d'euros par an, énormément de journaux, de quotidiens, des hebdomadaires. Et là, en fait, on met en question les dons de ceux qui, par exemple, écoutent ou suivent François, exemple.
Exactement. Et je vous ai aimé parce que, en fait, François a été aidé par tous ses lecteurs, dont notamment certains qui ont écrit, mais écoutez, pourrions-nous intervenir volontairement dans cette affaire pour apporter notre soutien en tant que lecteur ? Et ça, c'était pas gagné au départ. Parce que finalement, comme je l'ai dit...
Vous voulez dire les lecteurs de même, François
ont demandé à François, est-ce que votre avocat pourrait prendre en considération l'idée que nous aussi nous intervenions ? Je trouvais que c'était une idée excellente et c'est comme ça que nous avons reçu des centaines de témoignages et que des lectrices se sont constituées dans ce dossier. J'ai apporté avec moi, parce que ça me semble très important, l'attestation de l'une d'elles que j'ai trouvée formidable et que j'ai lu pendant l'audience, elle se reconnaîtra peut-être. Elle nous écrit, vous comprendrez tout. Suite à la décision du retrait de l'agrément de CPPAP à François, je tiens à témoigner de ce qui suit. Pendant toute cette période de crise Covid, j'ai été ravie et admirative de l'énorme travail effectué par François, qui a réussi à interviewer de grands scientifiques, spécialistes renommés dans le monde entier. François était le seul quotidien que je connaisse à faire ce travail, permettant à ses lecteurs d'être informés, de se forger une opinion, accédant à des avis différents. Pour soutenir ce travail remarquable, j'ai fait plusieurs dons à François dans la mesure de mes moyens. Y était incité par la possibilité de déduction fiscale d'une partie des dons. J'observe que s'il est tout à fait normal qu'un contrôle soit exercé sur la distribution des données publiques, ce contrôle doit être limité et se fonder sur les critères les mêmes pour tous, purement objectifs. J'estime que cette décision du retrait entraîne une rupture d'égalité inacceptable. En effet, en tant que citoyenne lectrice de la presse, je suis exactement dans la situation de n'importe quel autre lecteur qui soutient son journal en faisant des dons. Donc je ne vois pas pourquoi je serais privée de cet avantage au simple motif que j'ai choisi de soutenir. Alors, vous le comprenez très bien, le fait que le magistrat ait retenu cette intervention des lecteurs, c'est formidable parce que ça ouvre la voie à une presse financée par ses lecteurs. Et en plus, d'ailleurs, on ne comprend pas pourquoi il y aurait ce qu'on a fait valoir, une espèce de discrimination dans la philanthropie. Au bout du compte, c'est un acte de philanthropie. Il n'y a pas de raison.
J'aime un journal ou j'aime une radio ou j'aime ceci, je finance, je donne des dons parce que j'estime qu'ils contribuent à mon information ou à mes éclaircissements.
Et mieux encore, le juge a donné une indemnité pour les avocats qui ont soutenu les lecteurs, ce qui est tout à fait inhabituel, de 1500 euros. Je veux dire, je vous fais
souligner. C'est rare.
C'est même très rare, mais je profite pour aussi féliciter les journalistes et dont la rédactrice adjointe de France Soir, qui, pour le compte des journalistes, a fait cette intervention volontaire en disant que pour elle, c'était la liberté d'écrire. Donc il y a la liberté d'être informé, la liberté d'écrire et la liberté de la presse plus globalement.
Oui, ça va au-delà de France Soir, ça va au-delà de où va la liberté d'expression. Et vous rappelez très 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 bien, Diane Prota, vous et vos collègues, bien sûr, l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Peut-être qu'on pourrait la rappeler, cette... peut-être pas mot par mot, mais l'essentiel. Mais
c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la liberté des uns s'arrête là où elle nuit à autrui, et comme a priori la vaccination n'est pas obligatoire, on ne voit pas en quoi ne pas être vacciné nuirait à autrui, et donc encore moins quel serait le lien de causalité entre le fait de lire un journal et un danger qui serait causé à la liberté.
À moins,
comme je disais, que ce soit la liberté elle-même qui ne soit un danger, mais j'en profite parce que cette affaire est tellement large qu'il y a eu l'intervention proprio motu, je n'avais jamais vu ça dans ma carrière, d'un rapporteur spécial du Haut-Commissariat des droits de l'homme de l'ONU qui a écrit directement, je vous ai transmis d'ailleurs cette lettre, au tribunal et à la CPPAP.
C'est la Commission des droits de l'homme de l'ONU.
Exactement, la liberté de la presse a été saisie par ce monsieur qui est le représentant, le rapporteur spécial de la liberté de la presse au niveau de l'ONU, et maintenant l'ONU a 60 jours pour donner à la France son avis sur cette question. Et ce monsieur a écrit au tribunal, je peux vous le dire, je vous écris au sujet de la requête de France Soir, monsieur le Président, nous suivons cette affaire qui concerne le journal France Soir en ligne, la décision prise contre ce journal par la CPPAP pourrait contrevenir à l'exercice pacifique des droits fondamentaux, à la liberté d'opinion, d'expression, d'information et de participation à la vie publique, violation du pacte international des droits de l'homme, etc. United Human Rights Nation.
Oui, alors justement, alors posons la question encore une fois, au-delà de François, le cas de François est exemplaire, mais il y en a d'autres justement, et il y en a d'autres, on le sait, sur les réseaux sociaux, sur Internet et partout. Au fond, aujourd'hui, on a l'impression que la liberté d'expression devient un territoire de bataille. Il l'a toujours été. Évidemment, on va pas se rappeler Voltaire, on va pas rappeler les Lumières, on va rappeler tout cela, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, à votre avis, je demande à la citoyenne Diane Prota et pas seulement à l'avocate, hein, bien sûr, est-ce qu'il y a une volonté quand même générale de limiter tout cela? C'est-à-dire, et d'ailleurs, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, parce qu'on a l'impression que pour un certain nombre de gens, de quelque bord que ce soit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il faudrait peut-être vous empêcher un peu de vous exprimer. Est-ce qu'il n'y a pas de ça, quelque part, qui flotte dans l'air ou dans l'atmosphère en ce moment?
Ah, je le pense, puis je pense que ça flotte dans l'air depuis longtemps. Je sais que vous avez des caméras, je ne sais pas si ça se voit, mais est-ce que vous vous souvenez du slogan qui passait à la télé ? On peut débattre de tout, sauf des chiffres.
Oui,
Vous voyez bien.
Oui, on peut débattre de tout, sauf des chiffres.
Alors, je pense dans vos émissions, on débat de tout. C'est comme ça que vous le présentez.
Donc, avec des chiffres et on débat de tout.
Faut ouvrir d'ailleurs pour que les gens puissent. Donc, il y a, à mon sens, effectivement, une véritable volonté d'empêcher ce débat et on ne comprend pas pourquoi. Parce que finalement, il s'agit quand même simplement d'un traitement médical mis sur le marché par un industriel privé. Et on sait
par des industriels privés.
Mais on sait très bien que tous ces traitements, ils ne sont pas exempts dans l'avenir de présenter des risques. On voit très bien tous les scandales financiers, sanitaires.
Puis c'est pas
on
nouveau.
A eu des distilbène, je veux dire, jusqu'à les Votirox actuellement.
Les Viator, les Votirox,
etc. C'est par une presse libre qui a pu donner ces informations ces scandales ont pu être révélés. Mais si vous avez aussi, Anne, j'aimerais quand même insister sur un point, sur cette liberté. Donc, concernant François a fait valoir que comme finalement on lui retirait son agrément en le traitant de journal complotiste, qu'en réalité il y avait une atteinte très grave à son image, à celle de la résistance. Le titre François, dans l'idéal, dans l'esprit des citoyens, c'est un journal de la résistance. Et ce qu'a répondu le ministre finalement dans son mur, c'est de nous dire « Oh mais comme vous publiez ce genre de contenu, vous n'êtes indigne
de porter
ce message. Or, il faut rétablir ce message. La résistance, c'est aussi la permettre à chacun d'avoir sa propre liberté d'opinion. Et c'est cette image que François doit avoir. Et c'est celle qui, je pense, est restaurée aujourd'hui par cette décision. On n'est plus des complotistes. Le journal François est un journal qui porte haut les valeurs de la résistance.
Et de toute façon, même si effectivement nous ne sommes pas en 40-44, de toute façon, encore une fois, la liberté ne se dit divise pas. Et l'article Exactement. 4 est très fort en disant tant que ça ne nuit pas à autrui. Et comme vous avez expliqué, on va pas revenir là-dessus. Mais il y a autre chose aussi, juste pour terminer. En fait, est-ce que ça fait jurisprudence ou pas encore cette décision du tribunal administratif, Diane Prota?
Alors, elle ne fait pas encore jurisprudence parce qu'elle devra être confirmée au fond. C'est-à-dire que c'est une suspension provisoire. Quand vous attaquez cette décision, en général, les tribunaux sont encombrés, donc vous attendez une décision dans les 18 mois. Mais quand l'entreprise peut péricliter et les salariés, parce qu'il y en a une quinzaine, et perdre leur emploi, oui. On fait une demande urgente, qui n'est pas forcément toujours... Et il faut prouver cette urgence. D'accord. Donc, dans l'urgence, le juge a suspendu, il n'a pas annulé, il a suspendu dans le temps que le tribunal se prononce ultérieurement. Mais je pense quand même que, on a parlé de beaucoup de choses, mais qu'il y a certains éléments de droit qui sont tout à fait imparables, mais nous verrons bien ce que dit l'avenir.
Eh bien, écoutez, nous verrons bien et nous reviendrons là-dessus quand les décisions seront prises. Merci Diane Prota.
Merci de votre invitation.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour.
Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.
Ah, Joe Dassin. Est-ce que Joe Dassin, quand il chantait cette chanson admirable, pensait à Agnès Pannier-Runacher? Non, je ne pense pas. Mais nous vous disons, et vraiment avec sincérité, cher ministre, chère madame le ministre, si vous n'existez pas, il faudrait vous inventer. Parce que de temps en temps, vous sortez des choses tellement admirables. Quand vous avez parlé du travail à la chaîne, etc., c'était magnifique. Et là, vous venez de parler à France Info sur la crise énergétique, puisque je le rappelle, vous êtes ministre de la transition énergétique. Et vous expliquiez pourquoi il y a ce problème de l'électricité, soit des coupures, soit de la rareté, soit surtout de l'explosion des prix de l'électricité. Et voici ce que vous disiez.
Alors d'abord, Nihila Latrousse, je veux rappeler une chose. Le prix de l'électricité, quand il s'est envolé au mois de septembre-octobre, c'est pas parce qu'il était lié au prix du gaz, mais c'est parce que chacun craignait qu'il y ait une rupture d'approvisionnement d'électricité. Et donc, cette perspective de rupture a créé des prix qui sont envolés parce que les consommateurs sont allés dire « moi je suis prêt à payer plus
la crainte
pour être sûr de ne pas être coupé ».
Mais oui. Mais Agnès Pannier-Runacher, nous vous donnez toujours avec cette lucidité exemplaire qui est la vôtre, la clé du problème. Qui sont les responsables? Les consommateurs qui se sont rués pour acheter d'électricité qui étaient prêts à payer 1000 euros le mégawatt, non? Alors ça n'a rien à faire avec l'indexation sur le prix du gaz, ça n'a rien à faire avec la fausse concurrence EDF et tous les petits qui se sont engraissés avec les prix cassés d'EDF qui rachètent 10 fois le prix. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec Fessenheim et les centrales nucléaires à l'arrêt. Tout ça n'a rien à voir. Non. On a trouvé le coupable, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, les consommateurs. Et oui, vous, auditeurs de Sud Radio, vous êtes précipités pour acheter l'électricité très tôt, c'est ça. Merci Agnès Pannier-Runacher. Grâce à vous, on sait d'où vient le problème. Et on sait pourquoi les prix d'électricité se sont envolés. Voilà, eh bien, vous devez savoir, restaurateurs, boulangers, etc., sur qui vous retournez, sur vous-même, bande de consommateurs aveugles et inconscients. Merci, madame la ministre de la Transition énergétique. Et quelle énergie!
Tout de suite, dans le face-à-face du lundi 16 janvier, André Berkoff reçoit Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Une heure d'entretien pour revenir sur l'actualité, notamment l'actualité internationale. A tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et nous sommes avec Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle, vous êtes gestionnaire de patrimoine, voilà, et entrepreneur. Voilà. Vous êtes né en 1963, vous avez 59 ans, vous êtes le petit-fils du général de Gaulle et vous avez pris position à plusieurs reprises récemment sur un événement qui nous occupe beaucoup. C'est justement la guerre Russie-Ukraine, enfin ce qui se passe et les conséquences, puisque aujourd'hui, on peut le dire, hein, ça concerne pratiquement la moitié de la planète, sinon la totalité. Et il faut le dire, Pierre de Gaulle, vous avez pris des positions par rapport à la doxa médiatique, par rapport au discours dominant, des positions extrêmement hétérodoxes. Et je voudrais justement que vous nous expliquiez pourquoi. Et auparavant, je voudrais que vous me disiez si aujourd'hui, est-ce que ça veut dire encore quelque chose d'être gaulliste ? Je m'explique. C'est quand André Malraux disait « Mais après la mort du général de Gaulle, ça ne veut plus rien dire être gaulliste. Être gaulliste voulait dire quelque chose quand le général était vivant et depuis, ça ne veut plus rien dire. » Il le disait à peu près comme ça, ce ne sont pas ses paroles exactes. Là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, bonjour André, je vous remercie de votre invitation sur Sud Radio. J'en profite pour vous présenter mon meilleur vœu de santé et de prospérité,
également,
ainsi que pour nos auditeurs. C'est vrai que c'est une année intéressante, qui est à mon avis certainement une année de basculement, puisqu'elle montre à quel point les réalités apparaissent. Vous savez que le général de Gaulle disait que la politique est une affaire de réalité, et que malgré la communication bon ton, la communication uniformément acceptée et la fabrication de consensus, eh bien on arrive aux réalités. Si j'ai souhaité m'exprimer le 14 juin à l'occasion de l'invitation par la Russie à venir pour célébrer
la fête
nationale
de la Fédération de Russie,
voilà,
c'est bien ça, oui.
J'ai fait un discours spontané, donc c'était de ma propre initiative, parce que j'ai considéré qu'il était de mon devoir de rétablir certaines vérités face à la crise actuelle, à toutes ses conséquences, et tous les mensonges et contre-vérités qui ont été faites, notamment concernant la crise en Ukraine, qui est en fait une guerre et qui est fondamentalement une guerre économique. Mmh. Tout d'abord, souligner que je suis dans la continuité de la pensée du général de Gaulle, qui avait une connaissance intime et profonde de la Russie et de ses dirigeants, équivalente à aucun autre chef d'État, ni même de son vivant, ni même aujourd'hui, et qui considérait que la Russie et la France étaient liées par une longue histoire et par une communauté d'intérêts et de destin. Et surtout,
il a toujours considéré
ça. Il l'a toujours considéré, ouais, même au moment les plus difficiles de la guerre froide. Et surtout qu'elle était indispensable à la continuité d'un équilibre et à la prospérité et à la paix dans le monde. Je pense qu'il faut voir la Russie comme un État très fort, un État considérable, à la fois par la géographie, par sa richesse, par ses matières premières et la position géographique et géopolitique qu'elle occupe. La Russie est totalement incontournable et il faut replacer les choses dans son contexte. À qui profite cette guerre ?
Juste un mot, Pierre de Gaulle. On ne peut pas nier que c'est la Russie qui a agressé l'Ukraine, en l'occurrence le 24 février dernier, 2022, non ?
Oui, c'est la vérité. Mais qu'auriez-vous fait ? Qu'auriez-vous fait si, depuis la chute de l'Union soviétique en 1991, on vous avait fait des promesses qui ont constamment été réfutées, qu'on vous avait fait miroiter le fait que jamais l'OTAN ne s'étendrait à l'Est, que on a supprimé les uns après les autres les accords de désarmement, je parle des Américains, et qu'on a cherché à isoler la Russie en reniant la parole donnée qu'on lui avait faite de garder, si vous voulez, une certaine distance.
Vrai,
je dis bien
on peut
militairement.
Les accords de Minsk que Angela Merkel voilà. vient de dire alors, qu'elle ne les a signés.
Alors justement. Ça, oui. Les accords de Minsk ont été établis pour protéger les populations russophones du Donbass, lesquelles, dès 1994, ont fait l'objet d'exactions, de brimades, de la part de certains mouvements ultranationalistes ukrainiens. Il y avait véritablement des persécutions et on a signé les accords de Minsk qui étaient entre Ukrainiens, mais garanti par les Français, par les Allemands aussi, avec observance de l'OSCE et des pays limitrophes qui étaient chargés de protéger les populations et d'assurer une stabilité dans la région. Il y a eu ce coup d'État à Maïdansk en 2014, où on a institué un gouvernement donc que je considère comme soumis à l'OTAN, qui n'a cessé depuis lors de vouloir annihiler la culture russe, persécuté les populations et qui a causé quand même entre 16 et 18 000 morts par suite de bombardements et d'exactions.
Dans le Donbass.
Dans le Donbass. Angela Merkel a récemment, alors je ne sais pas comment on peut caractériser cette déclaration, mais dans l'article de Die Zeit du 7 décembre de l'année dernière, a dit que ces accords, elle n'avait jamais l'intention de les faire respecter et que c'était un leurre pour permettre à l'Ukraine de s'armer.
Ce qu'a confirmé, pardon, François Hollande.
Ce qu'a confirmé François Hollande, qui est d'ailleurs étrangement resté silencieux sur la question, comme il est resté étrangement lointain et silencieux par rapport au rôle qu'il aurait dû jouer, comme la France est restée extrêmement lointaine et silencieuse par rapport au rôle qu'elle aurait dû jouer en tant que grande puissance internationale, en s'affirmant comme un partenaire crédible de la Russie, ce qu'elle n'est absolument plus aujourd'hui. Et donc, on se retrouve face à une situation de guerre, parce que si les accords de Minsk avaient été appliqués, on n'en serait pas là. Donc, il faut bien rappeler la causalité. On a menti aux Russes de façon effrontée, et la menace était grande pour Poutine de se faire encercler. Alors vous me direz, oui, mais bon, finalement, ça aboutit à l'effet inverse, puisque l'OTAN s'est élargie. Mais l'effet inverse, c'est justement que l'OTAN a été créée pour éviter exactement la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. L'OTAN a été créée pour éviter un conflit nucléaire majeur, et donc qu'il puisse y avoir des accords entre pays limitrophes pour que si jamais le conflit ne s'étende pas et ne débouche pas sur une guerre nucléaire. C'est-à-dire qu'il puisse y avoir un espace de manœuvre pour un conflit conventionnel avant le déclenchement ultime d'une guerre nucléaire.
Oui, qui
serait... Donc, la Russie se trouve maintenant avec la possibilité d'avoir une arme nucléaire à 5 minutes de Moscou. Il n'y a absolument aucune marge de manœuvre. Ensuite, les États-Unis, à qui profite la guerre, et l'OTAN ont délibérément laissé l'Ukraine s'armer, et de façon outrancière. Arestovitch, futur conseiller de Zelensky en 2019, appelait ouvertement à la guerre. On demandait qu'est-ce qui est meilleur pour son pays. La paix ou la guerre avec la Russie.
La guerre.
Il a clairement dit la guerre. Dès 2020, Zelensky appelait à l'arme nucléaire sur son pays. Sachant que, en plus, il y a des volontés manifestes maintenant de la part de l'OTAN alors vous me direz, c'est pas nouveau, mais de renier les accords internationaux, de renier la parole perdue, notamment en Serbie.
Est-ce que vous êtes de ceux, Pierre de Gaulle, qui pensaient que à partir du moment où le pacte de Varsovie a disparu, et il a disparu en 91, bien sûr, vu ce qui s'est passé, est-ce que l'OTAN n'avait plus du tout sa place? Est-ce que l'OTAN aurait dû, pour vous, disparaître en même temps que le pacte de Varsovie?
Je pense que non, mais l'OTAN aurait dû s'aménager, évoluer par rapport à ce nouvel équilibre, en respectant l'identité des nations et l'intérêt des grandes puissances, dont la Russie. On ne peut pas se passer des Russes. Si vous regardez la position de la Russie sur la carte, on ne peut pas se passer des Russes. C'est un territoire qui est puissant, qui est entièrement autonome et qui est un arbitre entre l'Asie et l'Europe. On parlera tout à l'heure de l'émergence de l'Eurasie. On se fait complètement éjecter de cette opportunité, de ce poids politique, de ce considérable ensemble géographique. Il faut quand même pas oublier que par rapport à la politique américaine, les États-Unis ont perdu leur leadership économique à partir du moment où ils ont supprimé les accords de Bretton Woods, c'est-à-dire d'asseoir le dollar contre de l'or. Et donc ça a été la porte ouverte à l'endettement. Et ils ont perdu, alors ça c'est lié à la cause du Vietnam, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam montre aussi que les Américains ont perdu leur leadership militaire. Et donc il s'agit pour eux d'essayer de reconquérir le terrain perdu, donc face au bloc Asie qui n'auront jamais, puisque le vrai adversaire économique des États-Unis, c'est la Chine. C'est clair, un autre morceau. Alors, pardonnez-moi, André, si je termine mon raisonnement.
Je vous en prie.
Vous faites un bloc allié entre l'Europe, c'est-à-dire 450 millions de personnes, avec une devise internationale de référence qui s'appelle l'euro, une véritable richesse industrielle, un véritable savoir-faire, un véritable réservoir de connaissances, une cohésion politique. Vous direz, au sein de la Commission européenne, il n'y en a pas vraiment, puisque les affaires récentes, y compris le Covid, ont montré justement qu'il n'y avait aucune cohérence politique. Vous alliez ça avec la Russie, mais vous avez un bloc indestructible qui n'a surtout pas besoin des Américains.
Oui, sauf qu'on n'en est pas du tout là, on est même aux antipodes. On va en parler tout de suite, Pierre de Gaulle, après cette petite pause.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours et plus que jamais avec Pierre de Gaulle, conseiller en stratégie et finances d'entreprise. Et nous parlons effectivement de ce qui se passe depuis le 24 février dernier dans cette opération spéciale, dans cette guerre Russie-Ukraine, et dont on a un peu parlé de cette géopolitique. Mais votre grand-père, le général de Gaulle, quand il parlait de l'Atlantique à l'Oural, il disait effectivement, nous devons parler d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous en sommes loin aujourd'hui, nous en sommes presque aux antipodes par rapport à, vous dites, ce bloc Eurasie. Mais effectivement, l'impression qu'on a, c'est que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui sont les marionnettes et qui sont les marionnettistes, ou du moins on le sait en partie, mais on a l'impression que cette guerre n'en finit pas, et n'en finit pas en tout cas de sitôt. Quel est votre sentiment là-dessus ?
Alors je pense que c'est une grave erreur que de voir les Russes avec des yeux d'occidentaux. C'est ne pas comprendre l'âme russe. Les Russes, c'est un peuple déjà de philosophes, c'est un peuple de musiciens, c'est un peuple de scientifiques, c'est un peuple de conquérants. Et on veut les reléguer au plan de seconde puissance, plus ou moins en voie de développement.
Oui, il fait de Rustre et de Plouc.
De Rustre et de Plouc, c'est l'image du bolchevique qui a le couteau entre les dents. Ça, qui date de 1917, depuis que les bolcheviques à l'époque avaient répudié les emprunts russes. En fait, et ce sont des conquérants. Ce sont des conquérants et ce sont des gens qui sont rudes et qui sont habitués à vivre en autarcie. Alors l'œil occidental voit la guerre comme, évidemment, c'est une chose épouvantable, hein, on va pas revenir sur cette affreuse réalité.
Bien sûr.
Mais on a une perspective de court terme. Qui est un petit peu le travers de l'Occident, c'est que tout de suite, il faut passer à autre chose, on est habitué à une satisfaction du court terme, on est...
Un zapping,
exactement, parce qu'on a tout de suite d'autres sources d'informations, d'autres sources de plaisir, d'autres réalités. Et donc, la guerre est une affaire de long terme. Pour moi, je le dis à l'antenne, il faut être fou pour s'attaquer aux Russes. Il faut être aussi fou pour considérer que dans l'état actuel des choses, on ira vers une victoire de l'Ukraine.
Ah oui, ce qu'on entend du matin au soir. La Russie se décompose,
Poutine est gravement malade. Mon Dieu, ça y est, son armée se décompose. Il faut savoir que la Russie est quand même la seule armée à pouvoir mettre en place des missiles hypersoniques à bord d'avions, à bord de bâtiments de guerre. Il y a également récemment, c'était un demi-aveu de la part des Ukrainiens, puisque le chef des renseignements ukrainiens, tout comme le chef d'état-major des armées américains, ont laissé entendre, à ma foi, que l'issue d'une victoire ukrainienne était très très loin d'être évidente. Et récemment, aveu s'il en faut encore un, Zelensky, le 28 décembre, a décidé de donner un mandat au fonds américain BlackRock pour reconstruire son pays. Alors ça veut dire qu'il est déjà passé, il n'est plus dans la guerre, déjà dans la paix, la paix qui de toute façon s'imposera nécessairement, c'est la paix aussi que veulent tous les peuples, mais il est déjà à la reconstruction de son pays, donc on est encore une fois de plus dans les questions d'argent, et il donne mandat ouvert au premier fonds d'investissement américain pour reconstruire son pays.
Vaut des trillions de dollars, rappelons-le, BlackRock.
On est à peu près entre 8 et 10 000 milliards de dollars, effectivement, sur l'état des marchés, par rapport à un PIB français qui est, je crois, de 2600 ou 2500 milliards. Vous me corrigerez si je me trompe, de quelques centaines de millions. C'est donc un poids financier absolument considérable. Et les entreprises européennes et la France courra derrière si on veut bien le laisser quelques miettes. Alors, il est vrai qu'il y a des liens entre le président Macron et le fonds d'investissement BlackRock, comme avec certains consultants américains. Je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place.
Pour ne pas nommer.
Voilà, je ne doute pas qu'il puisse y trouver sa place.
Ouais.
Mais si vous voulez, l'Ukraine, c'est un pays qui est quand même... qui a été remis en cause plein de fois lorsqu'on a mis en place le drapeau de l'adhésion à l'Europe comme de l'adhésion à l'OTAN, mais la plupart des pays européens étaient extrêmement réservés sur les capacités de l'Ukraine à tenir ses engagements, à être un partenaire sérieux, crédible, en ce qui concerne une contrepartie européenne. On est, je précise aussi à l'antenne, si les auditeurs ne le savent peut-être pas, c'est que l'Ukraine a vendu ses terres agricoles à des fonds anglo-saxons. Un tiers des terres agricoles ukrainiennes appartiennent aux fonds, à des fonds anglo-saxons. C'est quand
même... Un tiers des terres agricoles un tiers du total de l'Ukraine.
Oui, un tiers des terres agricoles de l'Ukraine, on est dans la surface agricole de l'Italie, à peu près. Donc on est dans un pays qui est quand même largement revendu, je pense qu'il n'y a pas d'autres termes, et on est dans une situation où l'Ukraine devient le terrain d'essai de toutes les armes du monde. Zelensky a menti délibérément au peuple ukrainien, en faisant croire que ça serait une guerre facile. Les Américains ont largement menti à Zelensky en lui faisant croire que, avec l'apport de l'aide financière, des armes, des systèmes d'armes, de l'électronique, des satellites, eh ben ça serait réglé en quelques semaines et qu'ils ne pourraient pas perdre. Qu'est-ce qui en paye le prix ? Ce sont des centaines, des milliers de personnes, voire des millions de personnes
d'hommes, de femmes, d'enfants,
qui sont exilés, qui subissent des bombardements et qui en sont malheureusement les grands perdants. Alors on m'a posé la question, mais ma foi, les Russes aussi sont les grands perdants de cette guerre. On a dit, ça y est, la Russie va s'effondrer.
Nous allons mettre à genoux l'économie russe.
Nous allons mettre à genoux l'économie russe.
Notre ministre.
Et puis petit à petit, on se rend compte que finalement, la récession n'est plus que de 15%, puis de 10%, puis maintenant de 3%, que l'inflation a été réduite également de 3%. Quand vous voyez le cours du rouble contre dollar et contre euro, on est au même niveau qu'il y a 5 ans. Et en plus, la Russie, qui est loin d'être un pays passif, fait de gens arriérés, etc., a complètement réorienté son économie. C'est-à-dire que les chaînes d'approvisionnement se sont déplacées en fonction de contreparties qui sont situées à l'Est, dont l'Arabie Saoudite, qui a importé 3 fois plus de pétrole russe, alors qu'ils sont les premiers producteurs de pétrole. L'Inde, évidemment, la Chine, évidemment, les Émirats, qui achètent un peu plus de pièces d'Airbus et qui les revendent aux Russes. N'imaginez pas que les Russes non plus soient prisonniers des programmes Airbus ou Boeing, puisqu'ils sont capables de produire leurs propres avions. Ce sont des conséquences. Alors, on nous a raconté beaucoup de mensonges, hein, évidemment, avec une position de la France qui est extrêmement ambiguë. On veut la destruction de la Russie, et puis après, il faut leur apporter des garanties. En faisant croire, même dans cette fameuse rencontre entre Macron et le président Poutine, où on l'a mis à 4 mètres de son interlocuteur, parce que soi-disant, Poutine avait peur du Covid, enfin, c'est à peu près n'importe quoi. Il faut redonner, pour assurer un équilibre, une paix, des garanties, et il faut qu'il y ait des interlocuteurs crédibles qui respectent leurs paroles données.
On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Pierre de Gaulle, nous continuons à parler effectivement de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, mais deux questions d'abord. Vous dites oui, mais on ne peut pas vaincre la Russie, vous savez, la Russie est trop forte. Je vous posais une question quand même, est-ce qu'on ne disait pas ça en 40, 41 ou 42 de l'Allemagne ? On ne peut pas vaincre l'Allemagne, elle est trop forte. Cette comparaison n'est évidemment pas raison, mais est-ce que c'est une position en disant, est-ce que c'est ça ? Parce que le discours que vous avez aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Europe, oui, mais si on arme suffisamment l'Ukraine, si on leur donne, et il y a des instructions, on leur donne les moyens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas arrêter la Russie dans cette entreprise agressive.
Je pense que il faut bien avoir conscience des notions de nombre, de temps et d'espace. l'espace de manœuvre, le nombre, le temps et les ressources militaires, sinon financières, de la Russie sont absolument considérables.
Ils n'ont pas engagé le dixième de ce qu'ils pourraient engager.
Ils n'ont pas engagé le dixième. Alors, Ursula von der Leyen, qui n'est pas un mensonge près ou une contradiction près, mais cette fois-ci, je pense qu'elle a dit quelque chose qui s'approche de la vérité. Je ne veux pas faire des comptabilités dramatiques de pertes qui sont épouvantables et faire des spéculations sur les chiffres, mais elle a parlé quand même de pertes extrêmement importantes en Ukraine, avec un nombre de blessés, vous le savez, qui est trois fois supérieur au nombre de morts. On parle de 400 000 personnes déjà qui payent le prix de cet affrontement, encore une fois voulu par les Américains. Je pense que la réalité est bien supérieure. On parlait de l'armée allemande, mais qu'est-ce qui s'est passé à Stalingrad ? Staline, les armées de Staline ont brisé l'armée allemande. Ses commandants ont brisé les chines de l'armée allemande au prix de pertes effroyables. Puisque la bataille de Stalingrad, c'est environ 2 millions de morts. Ouais. 450 000 environ soldats allemands engagés, dont à peine quelques dizaines de milliers sont revenus entiers en Allemagne. Et au prix de pertes effroyables, c'est le rouleau compresseur russe qui a fait son office, qui a écrasé l'armée allemande. C'est certainement... ça a été décisif dans la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, à votre avis, ce rouleau compresseur existe encore et toujours
plus
encore.
Bien évidemment, oui. Il existe à la fois dans les effectifs, dans la supériorité technologique, dans la volonté et les moyens qui seront mis en œuvre. Alors, je ne pense pas, je suis même quasiment certain, d'ailleurs ils l'ont répété plusieurs fois, que les Russes ont l'intention d'envahir l'Ukraine. C'est pas du tout leur objectif de s'imposer par rapport à une population qui serait hostile à la Russie.
Eux, c'était le Donbass, la Crimée...
C'est ça, exactement. Le Donbass et la Crimée. Mais ce pays est devenu, malheureusement, une plaque tournante de trafic. Ça l'a toujours été un peu...
C'est vraiment une plaque tournante de trafic quand on dit laboratoire...
Alors, on a parlé de 32 ou 33 laboratoires de recherche biologique qui n'étaient pas tous à des fins civiles, mais militaires. Mmh. On a parlé des terres agricoles. Il y a quand même près de 100 milliards de dollars qui ont été versés à l'Ukraine. Zelensky a licencié tous ses contrôleurs de budget. On dit que moins de la moitié de l'aide qui a été versée arrive véritablement aux Ukrainiens. Et comme je l'ai cité plusieurs fois...
Est-ce que c'est, à votre avis, c'est plausible ou c'est les ennemis de l'Ukraine qui disent voilà, c'est le trafic, on dit même que des armes sont revendues au marché noir?
Alors je l'ai cité, il y a un catalogue de 1000 pages qui a été publié par le gouvernement ukrainien, catalogue d'armes destinées à la revente sur les marchés internationaux. Donc tout ça va alimenter les guerres, les trafics, les crises et le terrorisme. Je le citais ce matin... Je pense que la position d'Israël est extrêmement intelligente. Hein. État en guerre qui connaît bien la stratégie, qui évidemment ne fait pas n'importe quoi. Ils ont toujours refusé une aide militaire à l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas envie que les armes qu'ils vendraient se retourneraient contre eux. D'ailleurs, ce que l'on cède à l'Ukraine, ce sont pas des armes dans leur état ultime de développement.
Oui,
ce ne sont pas les armes avec les systèmes d'armes, les capacités, l'évolution les plus avancées.
Ce sont des armes à l'obsolescence programmée.
Armes en obsolescence programmée. Mm-hmm. D'autre part, pour faire une guerre, et c'est un point extrêmement important, il faut les ressources financières pour y arriver. Je ne pense pas que les États-Unis, malgré le bénéfice qu'ils tirent de cette guerre, en vendant le gaz naturel liquéfié 4 à 7 fois plus cher que dans leur propre pays, et les moyens de continuer cette guerre par procuration, avec une dette de près de 32 000 milliards de dollars, qu'ils ont de plus en plus de mal à refinancer, un pays qui est dans un état économique mauvais, avec l'Obamacare qui a été supprimé, donc pas de protection sociale pour ses habitants, avec des infrastructures qui sont dans un état lamentable, à la fois en termes de transport ailleurs et de réseau électrique, qui a raccroché récemment un plan pour lutter contre le gaz carbone dans son propre pays. Mais contrairement à ce qu'on fait nous en Europe, c'est-à-dire qu'il y a une directive européenne qui s'impose aux États membres et qui oblige à avoir 37% d'énergie renouvelable en 2030, eh bien, eux, ce sont des incitations fiscales, ce sont des possibilités économiques qui sont données à leurs entreprises pour arriver à cet objectif.
Mais alors, justement, vous parlez des États-Unis et puisque c'est vrai que ce sont eux qui ont l'initiative, enfin, qui ont une initiative, mais vous savez très bien, Pierre de Gaulle, qu'il y avait ce plan Brzezinski qui consistait à démembrer la Russie. Est-ce qu'ils sont encore, c'était au temps du RSS déjà, la Sibérie étant ce qu'elle est avec ses trésors du sous-sol et ailleurs, est-ce que vous pensez que derrière cela, il y a une partie du pouvoir américain, j'y ai une partie, qui pense encore au démembrement de la Russie, et ils disent, voilà, faudrait y arriver d'une manière ou d'une autre.
Bien entendu. Ouais. Le RAND Corporation est un think tank qui a été créé en 1948 comme organe de réflexion, d'idées pour proposer des solutions au département de défense américain. Et dès cette période, le but a été très clairement de démembrer la Russie et de faire en sorte surtout que la Russie puisse s'émanciper et de devenir autonome selon un modèle qui serait différent des Américains. Encore une fois, alliée à l'Europe, la Russie serait une puissance considérable, et surtout l'ensemble de ce continent, de l'Atlantique à l'Oural, serait totalement autonome et n'aurait absolument
vous
pas besoin...
Vous l'appelez de vos voeux, personnellement?
Moi, je le souhaite, qu'il y ait des alliances qui soient raisonnées, construites, avec le respect, évidemment, de l'identité et des politiques entre États, mais qui puisse se construire une coopération, d'abord, une reprise du dialogue, et puis une entente et une coopération avec la Russie. Je vais vous citer un exemple. La station spatiale européenne.
Oui.
La Russie représente à peu près 25% de la masse, par son module autonome russe, il y a un module russe et un module américain, de la station spatiale américaine. On a appelé au secours les Russes pour aller chercher les trois spationautes bloqués dans un des modules parce qu'il y avait une fuite de carburant suite à une micrométéorite qui avait percé la coque. Eh bien, on est heureusement dans un système où on voit un peu plus loin que les basses considérations d'équilibre de la planète, où il y a une coopération entre États. C'est une démonstration éclatante qu'on ne peut pas se passer des Russes, ni de leur technologie, et que les pays peuvent s'entendre. Moi, j'appelle fondamentalement à la paix, j'appelle fondamentalement à ce qui permet de faire la paix, c'est-à-dire un dialogue, c'est-à-dire des relations culturelles, et c'est-à-dire aussi des relations économiques.
Donc vous avez été assez choqué par le fait de voir en Europe des artistes russes, des musiciens, des chanteurs, voir Dostoïevski déclaré persona non grata à Milan dans l'université. Enfin, tout ça, je suppose, vous a...
Ce qui m'a choqué, c'est que l'on condamne le russe, simplement parce qu'il est russe. On condamne la nation russe, qu'on condamne l'ensemble du peuple russe pour des considérations politiques, qu'on prive le russe de son droit de propriété alors qu'il est simplement russe. Ça me rappelle quand même l'époque de Vichy, où on spoliait la propriété d'une population qui était absolument pas responsable et qu'on spolie la propriété des juifs. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et qu'on discrimine des artistes, qu'on discrimine des sportifs sur le simple fait qu'ils sont russes, oui, ça m'a choqué. Je ne vois pas pourquoi c'est contraire au droit international, c'est contraire au respect de l'intégrité des nations. Mais ça va aussi dans la volonté américaine d'imposer son modèle. Bon nombre de pays le refusent. On dit la Russie est isolée, mais 2/3 de la population mondiale soutient la Russie.
En tout cas, se sont abstenus dans le vote de l'ONU, on l'a vu ça.
Se sont abstenus, mais ont clairement indiqué qu'ils poursuivraient une coopération économique et militaire, dont la Chine. L'Inde, c'est la même chose, même s'il est plus discrète. L'Arabie Saoudite est en train de s'émanciper de la tutelle américaine.
Donc il y a un basculement du monde de ce point de vue-là.
C'est ce que je voulais vous dire.
C'est ça.
On assiste à un basculement du monde, un déplacement des centres d'intérêt économique, des centres d'intérêt politique et d'influence à l'Est, dont la Russie sera l'arbitre. On parle de l'Eurasie.
Carrément, oui.
Bien entendu, regardez la position géographique. Regardez la position qu'elle a sur les matières premières. On parle pas seulement de l'agroalimentaire, on parle des matières premières industrielles.
Nickel et tout le reste.
Oui, enfin. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans les sanctions. Énormément d'hypocrisie. À ce moment-là, arrêtons d'acheter de l'uranium russe. La Russie fournit 17% de l'uranium aux centrales nucléaires américaines. arrêtons de demander aux Russes de fournir des aimants pour les centrales nucléaires de nouvelle génération. Arrêtons la station spatiale européenne. Arrêtons d'acheter du pétrole russe à travers les terminaux.
Ce qui se fait encore.
Pipeline, et bien entendu. Ouais. Parce qu'il suffit que le pétrole russe soit mélangé et raffiné dans un autre endroit et soit mélangé avec un autre pétrole à 15-20%, automatiquement, ça devient un pétrole qui a une autre domination et qu'on peut librement acheter ou vendre sur les marchés.
Et le couronnement du couronnement, c'est le gaz de schiste, absolument interdit, non seulement d'exploitation, mais même de repérage en France, et on l'achète très fort aux États-Unis.
Alors on l'achète
dans le silence assourdissant des écologistes.
Dans le silence assourdissant des écologistes, il y a une réalité, effectivement, sur le CO2, sur les ressources de la planète.
Oui,
mais il faut quand même être concret. Il faut quand même être pratique. Les Américains, effectivement, vendent leur gaz naturel liquéfié et leur gaz de schiste 4 à 7 fois plus cher qu'ils le vendent à leurs propres habitants dans leur propre pays. Où on dit, ah ça y est, alors nous, en France, on agite le drapeau, la transition écologique, en disant c'est génial, on a la solution. Très bien, mais les programmes, les problèmes qui sont liés au parc nucléaire français, mon grand-père s'est attaché à bâtir, à mettre toute son énergie pour faire une France forte, qui est une voix puissante sur la scène internationale.
De Gaulle, Mesmer et compagnie, oui.
Exactement. Et assurer l'indépendance de la France en un point de vue, stratégique que civil avec le nucléaire, ils ont détruit l'œuvre de mon grand-père. Où est la France que mon grand-père a essayé de bâtir? Où est cette France forte, indépendante, stratégiquement, civilement, avec ses grands programmes? Où est la France crédible, avec sa voix qui portait sur la scène internationale? Où est la France en tant que véritable contrepartie qui peut offrir des garanties dans le cadre de conflits comme celui qui nous occupe?
Où est cette France? On va en parler tout de suite après cette dernière petite pause.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Pierre de Gaulle, petit-fils du général de Gaulle, conseiller en stratégie et finance d'entreprise. Pierre de Gaulle, on parlait justement, on a fini la conversation précédente par « Où est cette France ?». Alors justement, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce qui se passe en France aujourd'hui? Comment vous sentez cette situation entre ce que nous vivons en ce moment, la réforme de retraite et les réactions avec les grèves qui s'annoncent, la crise d'électricité, l'inflation? On a l'impression que beaucoup de gens, en tout cas, ont cette impression, tout se passe comme si beaucoup de gens ne savaient plus où ils habitent, ne voyaient plus le cap, ne voyaient plus de quoi il s'agissait, où est la ligne directrice, où sont les dirigeants?
C'est la question que je me pose. Heureusement, on arrive maintenant à une prise de conscience des réalités. Le général de Gaulle disait que la politique, c'est une affaire de réalité. Le Covid a révélé beaucoup de choses.
En quel sens?
Sur la capacité du gouvernement Macron, des gouvernements Macron à gérer la crise, les masques qu'on avait revendus qu'il fallait racheter en catastrophe. Je ne vois pas de vaccin efficace, encore moins de vaccin français, alors que le président a dit que le vaccin est efficace à 95%. Je n'arrive pas à comprendre comment, au bout de 15 doses, on puisse attraper de nouveau le Covid. Alors, c'est vrai que ça protège sans doute des cas graves et que ça permet effectivement de limiter la mortalité.
Encore que,
mais on a l'impression, au fil des confinements successifs, des vagues, que l'on gère en situation d'urgence, qu'il n'y a aucune anticipation, aucune véritable stratégie. Et maintenant, la guerre en Ukraine arrive à point nommé pour dire, ma foi, on vous a plongé dans une situation financière catastrophique. On n'a pas fait ce qu'il fallait pour maintenir la compétitivité des entreprises, pour soutenir les industries en France. La réforme des retraites, on est dans un déséquilibre que paieront les générations futures. Et on gère en urgence. On gère en urgence avec une communication qui varie aussi un peu en fonction des événements. Et je pense que les Français ont plus que jamais besoin d'honnêteté dans le débat. de vision claire, de plan stratégique pour leur assurer un avenir, une continuité et de faire en sorte que la France retrouve sa position dominante à l'international sur les marchés et également qu'on donne aux Français des garanties, un minimum et une sécurité dans la vie de tous les jours.
Et ça vous paraît possible de retrouver une position dominante ?
Avec une véritable volonté politique, oui. Mmh. Avec une véritable stratégie, oui. Avec un véritable retour de la France au plan international dans sa diplomatie, oui. C'est une question de volonté. On demandait à mon grand-père, on m'a demandé, pardon, lors d'une intervention précédente, qu'est-ce qui donnait à mon grand-père cette liberté ? Eh bien, cette liberté, c'était d'abord la légitimité. Je pense que mon grand-père, vous le savez, ne serait jamais maintenu avec une majorité très relative.
Il n'aurait pas fait de cohabitation
aux élections législatives de l'année dernière.
Ouais.
Donc, il avait, c'est vrai, une légitimité naturelle, mais aussi la question de la légitimité du peuple pour lui était totalement indiscutable. Et ensuite, ce qui lui donnait cette liberté, c'était la conviction, une vision claire et une stratégie. Quelle est la réalité d'aujourd'hui ? C'est que malgré l'argent qu'on dépense à tout va, il faut savoir que la dette française a augmenté de presque 50% sur la période.
3 000 milliards, on n'est pas loin de 3 000 milliards.
On n'est pas loin de 3 000 milliards, mais on oublie la dette hors bilan. On oublie la dette où l'État garantit les retraites des fonctionnaires, où l'État garantit le démantèlement, le soi-disant démantèlement et le renouvellement du parc nucléaire français. Tous ces engagements de l'État se montent à 5 000 milliards. Donc on a une dette cumulée de 8 000 milliards. C'est-à-dire plus de trois fois la richesse du produit intérieur brut français que les générations auront à payer. Parce qu'on a été incapable, notamment, de gérer le renouvellement du parc nucléaire français. On se retrouve dans une situation de dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. La France était assurée, et mon grand-père l'avait bâti, d'avoir une indépendance au plan énergétique grâce à 70% de la production du nucléaire. Alors, on n'a strictement rien fait, sauf à allonger la durée de vie des centrales de 40 à 50 ans, ce qui n'est pas tenable. Il y a des problèmes de corrosion qui sont absolument manifestes. Il faut 15 ans pour construire des réacteurs nucléaires français. Et on va se retrouver, même en ayant décidé la construction de 14 nouveaux réacteurs supplémentaires, à une production nucléaire qui va passer de 70 à 40. On va la remplacer. Par quoi va-t-on la remplacer ? On va la remplacer par l'éolien.
L'éolien.
On va la remplacer par gaz, par des cycles, les centrales à gaz à cycle combiné qui vont être alimentées par quel gaz ? Certainement pas le gaz américain. L'Algérie a des capacités d'exportation qui sont limitées. On va remplacer par des énergies de complément qui sont extrêmement chères et qui ne sont que des énergies de complément.
Et
tout ça affecte dramatiquement l'industrie, tout ça affecte les petites et moyennes entreprises, tout cela affecte les très petites et moyennes entreprises. Alors on dit, ah mais oui, mais ça y est, on va vous aider, on redistribue encore de l'argent pour faire en sorte que on ne puisse pas acheter au-delà de 180 euros du mégawatt-heure.
Oui.
C'est quand même 280 euros du mégawatt-heure, c'est pratiquement 6 fois le prix qu'on payait en 2021. Tous ces programmes étaient connus.
Tous ces problèmes
étaient connus et anticipés. Donc c'est dramatique dans le quotidien des Français, c'est dramatique pour les boulangers. Certains boulangers, malgré cette protection tarifaire prise en urgence et sans anticipation, vont se retrouver obligés de mettre les clés sous la porte. On va pas faire passer le prix de la baguette de pain de 85, 90 centimes ou un euro à 3 ou 4 euros.
Mais on va encore arroser, Pierre de Gouvard.
On va encore arroser,
la planche
sachant que la France est la championne du monde des dépenses publiques, la championne du monde des prélèvements obligatoires et la championne du monde des dépenses sociales. Pour quelle efficacité ? Pour quelle efficacité ? Où est la France de mon grand-père qui a laissé une France, vous me direz, les conditions économiques étaient différentes, mais force sans endettement. La conséquence, c'est William Sorin, Garbit, c'est Duralex, c'est Arcelor, pour ne citer qu'eux, qui ont décidé leur mise en chômage technique pour 80% de leurs usines et donc 80% des salariés.
Alors,
comment fait-on ?
Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, devant cette situation, oui, personne ne vous la contestera, Est-ce qu'il faut encore, pour parler comme votre grand-père, pour un sursaut éventuel, est-ce qu'il faut, ça dépend d'un homme, d'une volonté, enfin quand je dis d'un homme, ou d'une femme, ou d'une personne, c'est le facteur humain qui va jouer ou quoi, à votre avis ?
Je pense que c'est la conviction, c'est la volonté, qu'il faut absolument arrêter de faire cette politique de communicant, absolument arrêter, comme l'a fait le président Macron, de vouloir contenter tout le monde, de dire d'un côté, ma foi, on veut la victoire de l'État ukrainien, et il faut absolument offrir des garanties aux Russes, c'est arrêter de dire qu'on nie la réalité de l'État algérien avant la décolonisation et qu'ensuite la décolonisation est un crime contre l'humanité. Je pense qu'il faut donner aux Français, alors il s'agit d'exemples sur la scène internationale, on a parlé aussi du Covid, il faut leur donner un langage de vérité, un langage clair, des véritables programmes de relance et de leur mettre sur la table quels sont les enjeux et les solutions qu'on trouve. Dire que la France est extrêmement dépendante sur la scène internationale et financière à cause de son endettement. Les Américains exportent leur endettement depuis 1973, depuis l'abandon de l'État lombard pour leur monnaie. Et il y a bon nombre de pays dans le monde qui refusent ce modèle parce qu'ils se retrouvent prisonniers. Pour tenir un pays, vous l'endettez.
Au-delà de ses capacités. Il faut sortir de ce modèle, quelque part.
Il faut totalement sortir de ce modèle. Et je pense que la France a ses capacités, a les capacités pour le faire, parce que la France a un formidable réservoir de talents. Elle a les meilleures écoles d'ingénieurs au monde. Elle bénéficie d'une créativité absolument fantastique. Elle a des industries. Elle a des gens de qualité. Elle a l'esprit français,
mais il y faut
elle a le bon sens.
Mais elle n'a peut-être pas, en tout cas au sommet, le courage et la volonté.
Elle n'a absolument pas au sommet, ni le courage et la volonté. Et il serait grand temps que le gouvernement se secoue et arrête de mentir. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. Et une absence considérable de volonté à affronter les vrais problèmes.
Merci Pierre de Gaulle.
Merci André.
C'était le face-à-face du lundi 16 janvier avec Pierre de Gaulle. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye, en quoi la pornographie fait évoluer la sexualité des Français en bien ou en mal. Vous nous appelez au 0826 300.